Greta Gerwig, qui est la réalisatrice de Barbie. On a appris là il y a quelques jours qu'il y aurait Eva Green dans le jury, Lily Gladstone qui était là l'année dernière puisqu'elle a présenté le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Elle a été nommée d'ailleurs aux Oscars, donc là elle revient en tant que membre du jury. On aura notamment Omar Sy aussi qui sera dans le jury, donc ça promet aussi des jolies montées de marche. Le réalisateur japonais Kore-eda, qui a eu la Palme d'Or en 2018 pour Une Affaire de Famille, qui est aussi un habitué du Festival de Cannes, qui aurait d'ailleurs pu faire un excellent président du jury, qui sera dans le jury. Et puis voilà, il y a plein d'événements qui sont très attendus, notamment la venue de Francis Ford Coppola, qui va présenter son film d'envergure Megalopolis. Mais sa femme est décédée il y a quelques jours, donc on se demande s'il va vraiment venir à Cannes, parce que c'était vraiment son pilier. En tout cas, s'il vient, ce sera aussi, je pense, sous forme d'hommage à sa femme qui l'a épaulé et qui a réalisé beaucoup de making-of de ses films tout au long de sa carrière. Donc voilà, il y a plein de choses. Super. Il y aura l'amour ouf aussi de Gilles Lelouch, enfin, ça va être bien.
Merci à vous, Laurie. Et puis pour rendez-vous avec Laurie samedi de 19h à 20h sur Europe 1. Merci à vous et bonne fin d'après-midi.
Merci Laurie.
Merci. À trop
bien, bonne réponse pour Valérie.
Moi aussi, j'ai croisé Tom Cruise et il m'a même posé une question très très intime.
Ah, si vous étiez célibataire.
Non, mais c'était une avant-première dans un cinéma et il m'a demandé où étaient les toilettes parce que je pense qu'il m'a confondu avec l'ouvreuse.
Donc c'est vraiment vrai.
Ah, c'est vrai.
Valérie, on va jouer au qui ou quoi.
Qui Europe 1. Le qui ou quoi.
Écoutez bien les indices que nous allons vous donner. Il faut que vous deviniez de qui ou de quoi on parle. Et ça a forcément un lien avec la date d'aujourd'hui ou le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette spéciale cinéma.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais son papa était chirurgien. C'est d'ailleurs lui qui a refait le nez de Josiane Balasko.
Il était dans la même classe que François Hollande pendant ses études, mais il est ami avec un autre président.
On peut dire qu'il a fait une carrière splendide.
À la plage ou au ski, il est toujours bronzé.
Eh bien, si vous ne trouvez pas, Valérie, c'est que vous n'avez pas vu ces films-là.
C'est qu'elle n'a ni la télévision, ni des cinémas près de chez elle.
Alors, Valérie, à qui pensez-vous?
J'ai entendu les indices, alors chirurgien, refait le nez de Josiane Balasko, après il y avait les bronzés, il y avait le splendide aussi.
Ouais. C'est pas facile parce qu'il faut savoir lequel.
Oui, il y en a plusieurs quand même.
Bah, tu penses au nez, en plus copain avec un président mais qui n'est pas l'actuel, ça c'est quand même...
Dans la troupe du splendide, voilà, réfléchissez, juste concentrez-vous sur les...
Il y en a trois, les principaux.
Il y a Gérard
Jugnot,
il y a Michel
Blanc.
Il y a un indice là, il y a quelque chose qui est parti.
Ok, ça vous dit rien?
Christian Clavier.
Mais comment
avez-vous fait? Déduction.
Merci beaucoup.
Et on verra tout à l'heure avec notre invité Jean-Marie Poirec, c'était la rencontre professionnelle. Tous les deux, ils se complétaient merveilleusement. Il nous racontera aussi que ce ok, il a pris toute son envergure dans la manière dont il était prononcé par Christian Clavier.
C'est tellement drôle.
C'est ça qui était.
En fait, devenu ça a été pendant une certaine génération. C'était rigolo, les gens le disaient.
Je crois qu'il y avait un producteur qui voulait pas entendre parler.
La scène écrite, elle donnait rien.
Qui trouvait ça nul et Christian Clavier lui a donné son relief.
Et c'est pour ça qu'à un moment, on n'en peut plus non plus.
C'est moi aussi.
Alors, sachez qu'il fêtera ses 72 ans la semaine prochaine. On en reparlera, bien sûr, de Jacouille la Fripouille, entre autres, dans Les Visiteurs. À Katia, dans Le Père Noël est une ordure. On peut dire qu'ils se sont bien trouvés avec Jean-Marie Poiré. On va continuer avec une autre question cinéma. Valérie, vous êtes OK? Vous êtes OK? Voici une question aventure. Alors, si je vous dis Indiana Jones, vous voyez le bel Harrison Ford, vous voyez son chapeau, son fouet, des mygales, une pierre précieuse que l'on tente de voler et qui déclenche un piège avec une grosse boule. Le héros est alors obligé de courir pour ne pas se faire écraser. Voici ma question. Dans une interview, George Lucas, qui a scénarisé la saga, réalisée par son ami Spielberg, a raconté d'où lui est venue l'idée. C'est venu d'où ? C'est la question que je vous pose. D'un Picsou, d'un clip de Donna Summer ou d'un flipper qui était dans son bureau? Ah, oh. Connaissez-vous cette anecdote, Valérie?
Moi, je ne connaissais pas. Je savais que Indiana, je crois que c'était le nom de son chien.
Ah ouais?
Ouais. Mais par contre, d'où ça vient?
Je ne sais pas, moi j'ai instinctivement... Bon, on va attendre Valérie. Valérie, vous avez une petite idée ou pas?
Alors, j'ai souvenir quand j'étais petite d'avoir lu un Picsou.
Bah ouais, moi aussi, c'est exactement ça.
Ah, vous lisiez Picsou, mais ça ne m'étonne pas. Mais ça correspond bien à votre métier, Picsou.
Ah ouais, ça fait partie vraiment, voilà, chacun
la question, c'est est-ce que Georges Lucas lisait Picsou?
Non, mais moi je suis d'accord avec Valérie, et en plus, mieux que ça, j'ai les bandes dessinées Picsou, j'ai l'image d'Indiana Jones, surtout. Avec, ouais, moi aussi.
Ah bah, alors donc, vous avez lu des livres.
Ah non, mais parce qu'il y avait beaucoup d'images, Sophie. C'est pour ça que...
Elle est fielleuse quand même. Elle est méchante avec vous.
Vous avez vu, Jean-Luc, elle n'est pas cool, ma Sophie. Pourtant, je l'aime. Mais qui aime bien, châtie bien. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, moi, je suis d'accord avec vous, Valérie. Picsou, ça m'est venu tout de suite.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Valérie?
Ah bah je bloque, j'ai vraiment souvenir de cette image où il y a la roue qui tourne dans Picsou, donc je bloque.
On a oublié de demander aux copains quand même.
Ouf. Une histoire publiée en 54 qui s'appelle Les Sept Cités de Cibola, une mésaventure qui est arrivée au frère Raptou. Georges Lucas a expliqué que la principale source de divertissement, c'était les comics books de Uncle Scrooge. C'est le nom aux USA de Picsou. Spielberg et Lucas vont être aussi inspirés par Belmondo dans L'Homme de Rio. Pour façonner le personnage d'Indiana Jones.
Je vous ai scotché, Sophie. Hein. La culture que j'ai à travers Picsou, moi, j'ai su.
Deux bonnes réponses pour Valérie.
Bravo, Valérie.
Bravo, Valérie.
Trois même. Trois, j'en ai oublié.
Un gros jackpot, en plus.
Ça se passe plutôt bien. Vous ne travaillez pas aujourd'hui, Valérie?
Non, je suis en vacances.
En vacances, donc ça vous donne l'occasion d'écouter avant de rentrer chez vous alors, hein, parce que d'habitude vous nous écoutez dans la voiture, là vous êtes chez vous.
Et à Arras, il fait le même temps que chez nous, c'est-à-dire qu'on a envie de manger une raclette?
Et c'est exactement ça, tout à fait.
Ouais, c'est pour ça que la musique, elle nous plaît en ce moment.
Non, en même temps, elle mange des raclettes à 20 degrés, elle. Hein.
Une question de James Bond pour continuer cette spéciale cinéma. Ça commence au cinéma en 1962 avec James Bond 007 contre Dr. No. C'est Sean Connery qui joue 007 et la superbe créature qui va enflammer l'écran. C'est Ursula Andress.
Avec son maillot de bain, elle était belle.
Du plan quand elle sort de l'eau, n'est-ce pas? Voici ma question. Alors que le film sort au Japon, il va se passer quelque chose d'étonnant.
Une émeute.
Mais quoi? Dans la traduction, il n'est pas dit que James Bond boit du martini, mais il dit qu'il boit du saké. Une séquence où un japonais tente de tuer James Bond a été coupée au montage, où le titre du film va devenir au Japon « Nous ne voulons pas de docteur ». Ce qui ne correspond pas au vrai titre. Donc ça voudrait dire drôle, que le titre a été
est-ce que c'est
mal traduit.
C'est Docteur No qui vient nous.
Docteur. Ouais, Docteur No.
C'est drôle, cela dit.
Alors, qu'en pensez-vous, Valérie, comme ça instinctivement avant de demander un avis aux copains?
Alors là, j'avoue, j'ai pas trop d'idées. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai pas vu. Je me souviens. Je suis trop du film, donc je vais demander aux copains. Les copains, est-ce que vous avez des idées? Parce que là,
je viens de voir un documentaire sur Sean Connery sur Arte, très intéressant.
Et vous avez la réponse du coup?
Ils en parlaient. La réponse. Non, ils n'en parlaient pas, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il n'a cessé, ce pauvre Sean Connery, de vouloir échapper à ses rôles de 007 et à vouloir prouver qu'il était un grand acteur. Ce qu'il a démontré d'ailleurs dans pas mal de films.
Et pourtant, à un moment, il est revenu à James Bond.
Il est revenu parce qu'il ne supportait pas que Roger Moore rapporte plus et soit payé beaucoup plus que lui.
C'est drôle.
C'est-à-dire qu'au début, il gagnait presque rien par film. Sean Connery s'était fait un peu avoir sur les contrats, alors que Roger Moore était payé 5 millions de dollars le cachet, quoi. Donc ça commençait à l'agacer.
C'est pour ça qu'une année, il y a eu deux James Bond qui sont sortis.
Ouais.
La même année, Roger Moore et l'autre, c'était jamais plus
jamais. Mais ça n'a pas trop marché, Lucien, je crois.
Comme quoi, Roger Moore, il avait déjà le détrôné avec Sean Connery.
Exactement.
Bon, revenons à Valérie, au Japon. Parce que là, c'est important, c'est quand même un gros jackpot.
Revenons au Japon.
Dans le film, il boit du saké au lieu de boire du martini. Une séquence où un Japonais tente de tuer James Bond a été coupée au montage, où le titre du film a été mal traduit et est devenu Nous ne voulons pas de docteur.
Moi, j'adore le titre.
Ouais, l'idée
parce que l'idée est rigolote. Les Japonais, ils parlent pas l'anglais vraiment ou quoi. Et puis, docteur, non. Donc, non. non, il y a
si
pas de
docteur. Si c'est pas ça, les auteurs sont des génies.
Non, ouais. C'est très drôle. De la c'est question. Très drôle. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc?
Mais moi, j'aime beaucoup cette proposition. Ouais. De
alors,
docteur
qu'est-ce que,
no.
C'est
qu'est-ce
ça qui nous fait
Valérie
le plus marrer, Valérie, en fait. C'est ça le problème.
Oui, mais Valérie, c'est sa quatrième réponse.
Ouais.
Hein.
Et puis, j'ai pas souvenir qu'un japonais tue. Ouais.
Moi non plus.
Ah, ça, je sais pas. J'ai
enfin, il essaye d'agresser James Bond.
Ouais. C'était pas un japonais.
Bon, il faut me donner une réponse. Valérie.
Je vais dire comme les copains, bah, sur le titre.
Eh bien, c'est une bonne réponse.
Ah,
le titre a été mal traduit. Les premières affiches, alors il y a écrit « Nous ne voulons pas de docteur ». Finalement, les affiches et tout le merchandising du film sera refait à temps. Et la catastrophe a été évitée de peu,
c'est vrai que
à temps.
Tu vas quoi, voir quoi au cinéma, toi, ce week-end ? Nous
ne
voulons
pas
de
docteur.
En tout cas, ça fait 4 bonnes réponses pour Valérie. Et il y a un jackpot conséquent à gagner, quand maître 1 400 €.
Eh ouais, 1 400 €. Là, il faut prendre son souffle, Valérie. Hein.
Alors, j'adorerais vous poser ce jackpot, mais je ne l'ai pas.
Si je l'avais. Bon, bah, vous donner immédiatement.
Vous allez improviser, Sophie, je vous connais.
Regardez cette équipe.
Vous avez ce talent-là, vous allez improviser.
Oh, je suis capable. Hein, vous savez,
c'est inventé 10 questions.
Bon, alors, 10 bonnes réponses en moins d'une minute, c'est le challenge. 1 400 € en jeu. Ok, Valérie.
Ok.
Un petit conseil des copains.
Oui, vous passez si vous ne savez pas, réfléchissez pas.
Bonne chance à vous.
Ouais.
Mais ne passez pas plus de 10 fois.
Attention, top chrono. Qui a été le réalisateur d'Edouard aux mains d'argent?
Je sais plus.
En 1973, qui joue le rôle de Victor Pivert?
De Funès.
Qui est le plus jeune, Keanu Reeves ou Johnny Depp?
Keanu Reeves.
Les frères Lumière, c'est Louis et Auguste ou Louis et Eugène?
Louis et Eugène.
Dans Inception, quel objet est très important, une toupie ou des ciseaux?
Une toupie.
Amélie Poulain, c'est sorti en 99 ou 2001?
99.
Quel acteur est le mari de Mélissa Thurio?
Jamel Debbouze.
Quand Jean-Claude Duss fait du ski, qu'est-ce qui ne va pas?
Le planté de bâton.
Quelle actrice simule un orgasme dans Quand Harry rencontre Sally?
Je sais plus.
En 1963, dans quel film il est dit « Touche pas au Grisby, salope » ?
Passe.
Qui joue Rambo dans Rambo ?
Stallone.
Oh là là, 5.
Bonne réponse.
C'était pas facile.
Ouais,
c'était pas
ouais,
facile.
C'est un vrai quiz cinéma.
Ouais. Le réalisateur d'Edouard de Main d'Argent. Voilà,
Tim Burton.
Les frères Lumière, c'est Louis Auguste. Et Auguste. Ouais. Amélie Poulain, c'est sorti en 2001.
Ah, 2001.
Quelle actrice simule un orgasme?
Meg Ryan.
Qu'est-ce qu'il est drôle, ce film, j'ai adoré.
Avec Billy Crystal.
Ouais,
dans quel film il est dit « Touche pas au Grisby, salope »
Tonton Flinger.
Touche pas au Grisby, salope.
Dans l'aventure.
Dans la fameuse scène de la cuisine. Ouais. C'est Francis Blanche, je crois, qui dit ça.
Il dit c'est là où il dit « Il y en a ».
Il n'y a pas que du fruit. Il n'y a pas que du fruit.
Valérie, pas de sous. Au contraire, on va ajouter 100 € dans le jackpot, désormais à 1 500 €. Mais en revanche, j'ai le plaisir de vous offrir
un sextoy reconditionné.
Vous allez être obligé de nous en offrir un à chacune si ça continue.
Ouais.
Une station météo SW403 de la marque Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Cette station connectée affiche sur son écran couleur les prévisions météo du jour et celles des 4 jours suivants. Avec Lacrosse Technologies, vous garderez un temps d'avance sur la météo.
Chère
Valérie, on vous embrasse.
Valérie, quand même.
Merci d'avoir joué avec nous et un petit message à passer.
Eh ben, je vous fais un gros bisou, bonne fin d'émission et puis à très bientôt, j'espère.
Nous accueillons Alain sur Europe 1 qui lui s'est inscrit. Bonjour Alain.
Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Alain.
Alain qui est nouvellement retraité, fraîchement retraité,
voilà,
comme on dit.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Oui, je profite de la retraite depuis peu de temps.
Ça veut dire que maintenant...
Je fais plein d'activités quand même.
Alors... Ben voilà, il doit être débordé Alain, comme tous les retraités.
Ah, je suis débordé, ouais. C'est vrai, vous n'avez pas tort.
Quel genre d'activité pratiquez-vous?
Déjà je fais le bricolage, je fais pas mal de vélo de route. Et puis comme on est dans la Drôme, il y a de très belles routes pour faire du vélo.
Ah ouais.
Puis il y a des événements sympas comme la Dromoise, l'Ardéchoise, la Corima qui s'est fait en mars. Voilà. Puis,
mais c'est quoi la Dromoise? On fait
c'est
quoi?
Des courses de vélo.
La Dromoise, c'est des cyclotourismes. de divers parcours.
Vous aimez le cinéma, Alain, en dehors du vélo?
J'aime. Ah bah oui, j'aime le cinéma aussi, il n'y a pas que le vélo. Bon. J'aime le cinéma, évidemment. J'aime surtout les comédies italiennes, le cinéma italien, et puis les comédies françaises aussi.
Ah bah ça tombe bien,
alors. Ah bah
oui, Jean-Marie Poiret. C'est pas rien, c'est vrai. Il m'a fait énormément rire.
40 millions d'entrées quand même, c'est 60 ans de cinéma français. On en parlera de tout cela avec lui tout à l'heure. Alain, il faut me donner 4 bonnes réponses. Il y a 1500 euros à gagner quand même.
Ah ouais, il est beau,
mais ils sont forts, les copains sont forts. Ouais.
Mais vous aussi, vous êtes forts, on le sent.
Je ne sais pas encore, je vais voir. C'est facile dans la voiture quand on répond.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inscrire, Alain?
J'aime bien votre émission, c'est sympathique, c'est divertissant, puis accessoirement, si on peut gagner un peu d'argent, c'est pas mal.
On apprend des choses, c'est varié, les domaines, et on s'amuse, exactement.
C'est pour ça que ça m'a plu, mais je vous précise, c'est la première fois que je joue un jeu radio ou télé.
C'est sympa, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent ça, voilà, ça me réjouit, King.
Vous m'avez donné envie de m'inscrire, voilà.
Ah bah c'est gentil. Alain, on va jouer avec les archives d'Europe 1.
Ouais. Vous êtes bien sur Europe 1. Bien entendu, sur Europe 1.
Vous êtes bien sur
J'adore ce jingle. À chaque fois, je voulais vous le dire, Sophie. Oui. Je le dis. Voilà.
Merci. Nous sommes contents. Voilà. Si ça vous plaît.
Je crois qu'elle vient de vous dire qu'elle s'en fout là.
Complètement. Ça se belle un vent. On s'en tape, Caro.
Elle l'a fait discrètement, avec beaucoup de politesse, mais elle s'en fout.
C'est pour ça qu'on l'appelle Sophie d'avant.
Ouais, très bien.
Je crois que Sophie ne supporte plus personne. Elle a envie de baffer tout le monde.
Pour cette spéciale cinéma, cher Alain, on va réécouter.
On va y aller, Jean-Luc et Caroline.
J'ai choisi les archives pour moi, pour mon grand âge.
Pas du tout. On va réécouter une séquence de Clap, l'émission consacrée au grand écran sur Europe 1, diffusée tous les samedis à 19h et présentée par Laurie Cholewa, que nous venons d'entendre. En janvier 2023, elle recevait Ramzy, de Eric et Ramzy, comédien lui confiait ses souvenirs cinéma.
Votre séance de cinéma n'a plus dingue, Ramzy.
Rocky 3, j'avais été voir Rocky 3 et à la sortie du film, tout le monde s'était bagarré dehors. Tout le monde se prenait pour Rocky et il y avait bagarre générale.
Vous avez participé ?
Non, je ne suis pas bagarreur, je ne suis pas fort, moi.
Alors, il a aussi confié quelque chose d'autre d'étonnant. Quoi donc parmi les 3 propositions que je vous fais? Que son père lui louait des films d'horreur pour que Ramzy ait peur de sortir le soir. Que son père lui avait longtemps fait croire qu'il avait eu une aventure avec Mireille Darc. Ou que, ado, il n'a jamais vu de film avec Depardieu et deux verres, car son père avait peur qu'il y ait du sexe. Il lui avait interdit de voir des films avec Depardieu et Devers, car son père avait peur qu'il y ait du sexe.
Donc il y en a une de fausse, alors.
Alors, c'est quoi, la question?
Là, je vous demande celle qui est vraie.
Ah voilà.
Ah oui, celle qui est vraie, d'ailleurs.
On voit que vous avez écouté tout à l'heure.
Il y a deux fausses et une bonne.
On n'a pas touché tout à l'heure.
Bah oui, j'ai besoin des copains.
Alors, que pensent les copains?
Vous n'avez pas d'intuition du tout?
Son père louait des films d'horreur pour que Ramzy
ait peur le soir. Il y en a deux possibles, je trouve.
Moi, je trouve que c'est une bonne idée, les films d'horreur.
Les films d'horreur, en plus, je suis de cette génération-là. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vidéoclubs. Ouais. On louait beaucoup de films pour se faire peur, mais c'était plutôt les
jeunes qui étaient volontaires.
C'est ça.
Ou alors, il n'était pas cool, son papa, quand même.
Il faut se remettre quand même dans les années 70, où il y avait le choc des valseuses.
Le choc des valseuses
pour les parents, c'était très effrayant quand même pour les parents.
C'est bizarre, les valseuses.
Et puis surtout, il y avait une nudité, une crudité qui faisait peur à tous les parents, et ce qui fait que les comédiens qui étaient dans ce film-là, après, on avait l'impression que c'était un danger, pour la jeunesse.
Tout, ça passe plus.
C'est clair.
Donc j'aurais dit que c'est un papa protecteur qui avait peur de la nudité.
Parce que t'imagines le papa qui monte des livres, des films d'horreur à son enfant, c'est glauque quand même. Je suis d'accord, les valseuses, c'était spécial. Même l'affiche du film était bizarre.
Oui, enfin.
Tout était bizarre.
Bizarre, en tout cas.
Je sens que vous voulez canceller les valseuses, mais ça reste quand même un film
mythique.
Complètement.
Ouais, c'est vrai.
Alors, Alain, qu'est-ce que vous faites?
Je vais suivre Jean-Luc Lemoyne avec l'histoire des valseuses et de Patrick Devers.
D'accord. Eh bien, on écoute la réponse.
Votre meilleur souvenir de cinéma, oui.
Jerry Lewis, parce que vraiment, c'est là où je vois l'importance du cinéma. Quoi. T'es dans la salle avec ton papa et il rit en même temps que moi. C'est des moments que j'oublierai jamais de ma vie. Donc, j'ai jamais vu un film de Patrick Devers, par exemple. Quand j'étais petit, de par Dieu non plus, parce que c'était des films où on était sûr. Mon père dit non, là ils vont se foutre à poil, là il y a du sexe là dedans. Donc dès qu'il y avait au générique Patrick Devers, on zappait.
Il voulait vous préserver.
Bravo. C'est donc une bonne réponse pour
merci
Alain.
Jean-Luc, et belle analyse.
Voilà. Il est trop fort, Jean-Luc.
C'est la première bonne réponse. Alors merci. On peut retrouver actuellement Ramzy sur Canal+ dans une nouvelle série qui s'appelle Terminal, une série coproduite et co-réalisée par Jamel. Vous l'avez vu?
Non, j'ai pas vu.
Non.
Vous n'avez pas l'air enthousiaste.
Ouais, vous faites une drôle de tête, Sophie. Oui, on dit quand même à nos auditeurs.
Pourtant,
sur MyCanal, par contre, je conseille. Moi, j'ai pas vu Terminal, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais j'ai vu un petit peu en retard, pas tout le monde, d'Argent et de Sang.
Ah, bah,
Ramzy Jouf, et c'est absolument à tomber.
Ouais. Mais il est bon acteur, hein, Ramzy. Ouais, c'est incroyable.
Très bon acteur. Ouais.
Et vraiment. Puis là, il y a une série aussi sur le tournage d'un film avec Pierre Niney qui s'appelle Fiasco.
Voilà. Il paraît que c'est très bien aussi.
Ouais, sur Netflix.
Ouais, mais c'est un fiasco, quoi.
Nous jouons avec Alain qui a déjà une bonne réponse. Et cher Alain, voici une question scénario. Et c'est la musique.
Gendarme,
la petite
compagnie, non?
Non,
gendarme,
c'est
comme moi, là, j'ai une hésitation.
Ouais. On va rendre hommage à Richard Balducci, né en 1922 à Paris. Il meurt en 2015 à Créteil. Durant sa vie, il a été l'attaché de presse de l'Olympia. Avant cela, il était correspondant de guerre. Il a même été acteur dans À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Mais il restera comme celui qui a eu l'idée originale de la saga du gendarme avec De Funès, Galabru et tous les autres. Comment est née cette idée? Comment en a-t-il eu l'idée? En allant à la gendarmerie après un vol pour faire rager son beau-frère qui était maréchal des logis ou en regardant un reportage à l'ORTF?
Alors là... Allô.
Oh là là,
on est là.
Il y a personne.
Oui, ça m'a coupé.
Il y a des cerveaux qui fument.
Ah ben oui, là.
Vous avez une idée ou pas, Alain?
Aucune, non. Là, franchement.
Une intuition.
Ouais, peut-être une petite intuition.
Son beau-frère qui était peut-être.
Ouais, moi, je trouvais que c'était ça qui était drôle pour l'embêter.
Après, répéter qu'il les voler.
Alors, est-ce qu'il a eu cette idée en allant à la gendarmerie alors qu'il allait porter plainte pour un vol? Est-ce qu'il a eu cette idée pour faire enrager son beau-frère qui était maréchal des logis?
C'est le plus drôle.
Ou est-ce qu'il a eu cette idée tout simplement en regardant un reportage à l'ORTF?
Bon, franchement, le plus rigolo, c'est la 2. Parce qu'il se fiche un peu de... Il se chambre un peu, c'est drôle quand même, c'est...
Alors, on n'est pas là pour trouver forcément la plus rigolote.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que Caroline, en général, c'est une boussole qui indique le sud.
Ouais.
Donc, quand elle dit ça, il y a de grandes chances que ce ne soit pas ça.
Ah, d'accord.
Moi, je partais plus sur l'ORTF.
Moi, j'aurais été plutôt sur un truc beaucoup plus simple. Si ça se trouve, il a été à la gendarmerie. Ah. Ça l'a inspiré un petit peu ce qu'il a vu là-bas. Et il s'est dit que c'était un bon sujet de comédie.
Ah ouais?
Moi, j'aurais plus pensé à la.
Moi, je croirais plus Jean-Luc que moi, vous imaginez.
Ah bon, d'accord. Il faut que je fasse plus confiance.
Il faut faire simple, mais.
Mais je trouve ça très drôle, la 2 quand même.
Allez, il faut bloquer une réponse.
Alors, je vais dire, c'est suite à un vol qu'il a été à la gendarmerie.
Je bloque votre réponse.
Oh là là, je croise.
On lui avait volé sa caméra. Il est en repérage à Saint-Tropez pour un film. Il se fait voler sa caméra dans sa voiture. Il décide d'aller porter plainte.
Génial.
Le gendarme qui l'accueille a du mal à se lever. Il est fatigué pour enregistrer sa plainte tout en lui expliquant qu'il connaissait très bien le voleur et que la veille, il avait failli l'arrêter à 5 mètres près. Et Richard a raconté la scène à Louis de Funès qui était d'accord pour dire que ça ferait un très bon film. Et c'est comme ça que la saga des gendarmes est née. Un petit coup de la musique encore?
Ah oui.
Vous êtes sûr que c'est pas la 7e compagnie?
C'est marrant parce que moi.
Moi aussi, il me semble que c'est la 7e compagnie.
Moi, j'en dis gendarme.
Alors, c'est les deux. C'est cette période, là, les musiques.
Non, mais il y a Jérémy, notre réalisateur, qui vérifie.
Ça ressemble tout un peu.
Tu l'imagines avec sur les épaules, tu sais.
C'est Michel Garrigue qui racontait sur ce film qu'il était
à l'hôtel.
Et il avait entendu le producteur qui parlait avec, je crois, Louis de Funès. Il disait. on va faire un film avec toi, il n'y aura que des ringards autour de toi.
Non. Et il a été appelé quelques jours après.
Donc... Bon, bah, c'est bien la musique des gendarmes. Deux bonnes réponses. Bravo, Alain. Pour Alain. Restez bien avec nous, Alain. On va se régaler en accueillant Jean-Marie Poiret. Merci d'être
bonjour,
avec nous.
Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
60 ans de cinéma, 40 millions d'entrées. Les chiffres sont absolument incroyables. Vous publiez Rire est une fête aux éditions Michel Lafon. Alors, j'ai lu que dans votre famille, et vous avez repris cet atavisme, on fuit l'ennui. C'est ce qu'on vit en lisant ce livre. Vous passez d'une scène à l'autre, comme vous avez réalisé vos films. C'est-à-dire que vous enleviez tous les plans de déplacement, par exemple, pour aller à l'essentiel.
Oui, dans ma famille, on n'aimait pas du tout s'ennuyer. Mmh. Et c'est d'ailleurs un truc assez drôle, parce que mon papa, qui était un grand producteur, qui a fait quand même 500 millions d'entrées, ce qui est quand même pas zéro.
Alain Poiret.
Eh bien, un jour, quelqu'un lui dit, mais comment ça se fait, tu n'as jamais fait tourner Fernandel, alors que Fernandel était une star majeure. Et il a dit, ah non, je le trouve assommant. En fait, il n'était pas question. Si quelqu'un venait dîner chez nous, voilà. Déjeuner, et était un peu sentencieux ou un peu casse-pied à déjeuner, après, c'était...
Il n'avait pas de dessert.
Non, il n'avait pas de dessert. On le renvoyait pas. Rigolo, il ne s'est jamais réinvité.
Vous dites que chez vous, il n'y avait que des gens drôles, alors que chez votre tante, il n'y avait que des intellos.
Oui, c'était chez Malbrot. Ils n'étaient pas des gens inintéressants, quand même. Ouais. Marguerite Duras, ouais. Alain Resnais, c'était quand même des gens. Mais c'était pas du tout le même.
Malraux, je crois aussi.
Oui, oui. Hein? Florence
c'était
Malraux.
C'était moins déconnant,
c'était,
quoi.
C'était moins fun.
Non, le débat était plus élevé.
Voilà. Alors, vous dévoilez tous les secrets de tournage, vos souvenirs passés avec les acteurs et les actrices, on découvre les coulisses de vos films. On se régale et on se marre. Moi, je me suis marrée, notamment avec les histoires de Jacques François sur le tournage de Twist Again à Moscou. Formidable. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, on va parler de la rencontre professionnelle de votre vie. On peut dire que c'est Christian Clavier, avec lequel vous avez beaucoup écrit de scénarios.
Ben, c'est mon complice, c'est mon associé, c'est mon complice. En plus, il a un avantage énorme, c'est qu'il est extrêmement bankable. Donc ça fait déjà, on a un avantage sur les autres.
Mais est-ce qu'il était aussi bankable avant l'opération qu'on a dit?
Quand même un petit peu. C'est-à-dire que bon, faut reconnaître que les bronzés. Ça a pris un temps avant d'avoir un nom en personne dans les bronzés. Au départ, on disait c'est les bronzés, ouais. C'était une troupe. Donc, ils ont un peu souffert de ça même. Mais et parfois, il y avait d'ailleurs des gens qui les reconnaissaient pas en tant qu'individualité. Mais enfin bon, c'était quand même un gros succès. Et puis, il a une chose, c'est que. Qui est absolument très précieuse pour moi. Christian, quand il arrive quelque part, il dit bonjour et les gens rient.
il a écrit la préface de votre livre, il parle de complémentarité, vous êtes extrêmement complémentaires
oui,
tous les deux.
Sûr.
On va écouter quelques répliques cultes quand même.
Jacouille, affripouille, votre humble serviteur, vous me reconnaissez quoi ? Messire ! Un sarrasin dans une chariote du diable ! Oh, mort de couille ! Ils vous ont plein de tronchés, là, c'est de pochetronner ! Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne.
Et ben, chez moi, tout le monde mange cette dame. Allez, venez ! Ça me coupe l'appétit.
Oh, non, que nini, que nini !
Voix d'un troubadour à flamber ! Boum ! C'est satanique !
Dingue !
Il va continuer à faire ça longtemps, lui.
Jour. Nuit. Jour.
Nuit. C'est
Alors, quand on pense à ce OK, il n'était pas du goût de tout le monde.
Ben, c'est pas tellement qu'il n'était pas du goût, c'est que j'étais en retard. Et donc, Alain Terzian, qui était le producteur exécutif du film, qui était donc en charge de l'économie du tournage, vient me voir et me dit, voilà, il faudrait couper quelque chose parce que... il faudrait qu'on rattrape un peu le temps perdu, et je dis bon, très bien, mais il me dit qu'est-ce que tu veux enlever ? Je dis moi, je ne m'opère jamais moi-même. Donc, chez le dentiste, c'est pas moi qui retiens ma dent. Je veux dire, je me laisse faire. Je demande qu'on me fasse une picouse déjà, et puis je me laisse faire. Donc, j'ai dit, écoute, tu vas me dire ce qui ne te plaît pas. Et c'était moi le producteur du film. Donc j'ai dit, puis je te dirai si oui ou non je l'enlève. Et alors, donc, il a bossé, puis il m'appelle comme ça le matin, il me dit, alors j'ai trouvé une scène nulle. Je te la lis. Alors. Et il la lit d'une façon, je veux dire, il y a une chose, c'est qu'Alain Terzian a été un grand producteur, mais c'est le pire acteur que j'ai jamais vu de ma vie.
Tu me dis qu'il était un peu chiant quand même.
C'est dingue. c'est dingue, c'est ok, c'est ok, c'est dingue. Je trouve ça bon, toi. Il me dit quand même, vous avez écrit mieux. Bon. Et ça m'a troublé. Parce que moi, je suis quand même un peu cabotin, c'est-à-dire que c'est mon métier, saltimbanque. Si le public rit, je suis ravi. S'il rit pas, bah, je le remets dans ma culotte, comme on dit. Bon. Donc voilà, je me suis dit, après tout, c'est peut-être pas si drôle que ça. Et j'ai dit, bon, écoute, d'accord, on va le couper. Et puis, j'ai eu une chance folle, c'est que j'étais en retard pour le tournage, mais j'étais aussi en retard pour le montage. Et donc, ma monteuse me dit, tu viens dimanche, on va choisir les prises, parce que moi, je peux pas continuer si tu choisis pas les prises que tu veux. Et je vois passer, parce qu'on ne tourne pas en chronologie dans un film, donc un ok de bien plus tard qu'on avait déjà tourné, et je la regarde comme ça, je fais un peu la tronche parce que je voulais qu'elle soit sincère, et je lui dis, mais tu trouves ça marrant toi ça? C'est drôle? Et elle m'a dit cette phrase que je ne peux pas oublier, c'est pas du tout drôle, elle me dit, c'est inénarrable.
Ah. Voilà.
Elle
a sauvé la scène.
Il y a une expression que vous utilisez souvent, c'est, vous dites c'est à se rouler. Oui. Quand, par exemple, Jacqueline Maillan, on va en reparler, mais quand elle fait sa petite moue de mépris pendant que Jacques Villeray chante dans Papy fait de la résistance, alors ça vous fait hurler de rire.
Oui, mais se rouler, c'est vraiment une expression qui me fait penser au truc d'enfant. J'avais vu un jour un film écrit par John Hughes, avec qui j'allais travailler plus tard, et il y avait un gars qui était très, très drôle et très réussi. Devant moi, il y avait un père qui emmenait son fils, visiblement, ça devait être un père divorcé, donc il emmenait son fils au cinéma, et donc je voyais le père qui était assez imposant, j'étais obligé de passer pour voir l'écran, et le fils qui était tout petit, et tout à coup, j'ai vu deux baskets devant moi, dans l'air, comme ça, qui bougeaient dans l'air, et je me suis dit, c'était un gag, et le gamin était tombé par terre, et voilà. Et moi, j'ai vécu ça, d'ailleurs, et ça m'a beaucoup aidé dans Les Visiteurs, parce que j'avais deux enfants qui sont venus, qui étaient les fils de Christian Bugeaud, qui joue le dentiste, et qui m'avait dit, voilà, est-ce que ça t'ennuie pas? Ces enfants sont très, très bien élevés. Donc, il a dit, vous faites pas de bruit, hein, vous vous mettez derrière le metteur en scène, vous ne bougez pas, pas un bruit. Ils étaient derrière la vidéo qu'on voit, le retour caméra, que je regardais, et j'entends à un moment donné qu'on torturait une souris, quoi. J'entends des petits cris, comme si quelqu'un marche sur une souris, ça fait... Donc, je me suis retourné, les deux enfants étaient par terre, c'était la scène des toilettes, quand ils se lavaient les chiottes.
Ouais, ouais,
les
dents, c'est drôle.
Les deux étaient là, il y en avait un qui avait enfoncé sa main jusqu'au fond de la gorge, l'autre mordait son pull, et mais quand ils m'ont vu, ils ont roulé.
En quoi vous étiez complémentaire avec Clavier dans l'écriture?
Parce qu'il fait toutes les consonnes et moi les voyelles.
Voilà. C'est bon ça.
Donc c'est ça le truc. Ouais. C'est-à-dire que bon, je ne suis incapable de dire qui a écrit, parce que on parle pendant des heures, par moments on oublie même de travailler. Parce
qu'est-ce que vous devez se marrer, vous devez vous marrer.
Oui, oui, oui. Puis on est très moqueur, c'est-à-dire que on peut être dans un restaurant et se foutre carrément de la gueule de quelqu'un. Je veux dire, bon, c'est odieux.
Vous parlez de son rôle de Jacouille la fripouille, il avait peur d'en faire trop. Et vous l'emmenez au restaurant et vous lui montrez un sommelier.
Oui, en fait, parce que je comprends qu'il ait peur. Il avait quand même, il envoyait le bouchon loin. Et donc il me dit, tu me le dis si j'en fais trop. Et la veille, j'avais été dans un restaurant où il y avait un gars. Parce que les gens normaux, lambda, ils ne se croient pas observer, c'est rare qu'on les regarde. Donc en fait, ils sont très libres par rapport aux acteurs qui me présentent leur meilleur côté, qui sont en présentation permanente. Donc là, pas du tout. Et alors le gars, il finissait d'abord les verres des clients, dès qu'ils avaient le dos tourné, il s'en collait un. Et c'était un clown, c'est-à-dire que j'ai rarement vu un type, en fait, autant, on aurait cru vraiment un personnage de
c'est parce qu'il savait que vous étiez là, il voulait vous épater.
Pas du tout, il savait même pas que je le regardais. Donc j'ai dit à Christian, tu vas venir, et on se met toujours face à face, j'ai dit, tu vas te mettre à côté de moi comme un vieux couple, on va regarder les gens comme ça. Et puis, on a vu ce type-là, j'avais peur qu'il ne vienne pas. Et ce soir-là, en plus, c'était exceptionnel ce qu'il a fait.
Il avait beaucoup
surpassé. Ah non, mais c'était à fond, parce qu'en plus, il était tellement bourré qu'il mélangeait les choses, c'est-à-dire que, parce qu'il était un petit peu funésien, c'est-à-dire qu'il était sirupeux avec les clients, et il était odieux avec le petit personnel, et qu'à un moment, il se mélangeait les pieds, et il était sirupeux avec le petit personnel, et odieux avec les clients. Il avait oublié où il était, en fait.
Alors, c'est amusant, parce que vous êtes aussi dans, évidemment directeur d'acteur. Vous tournez avec Jacqueline Maillan. Là, c'est dans Papy fait de la résistance. Et alors, il se trouve qu'elle est ravie que vous l'ayez embauchée, mais elle en fait trop. Elle est trop cabotine.
Oui.
Ouais.
En fait, j'ai réalisé que Jacqueline avait débuté avec De Funès. Elle faisait du cabaret ensemble. Donc, c'était c'était pas un couple, c'était un couple d'amis. Et puis, lui devient une star de cinéma. Elle devient une énorme vedette de théâtre, mais elle est très frustrée de ne pas faire de cinéma. Elle a fait très peu de films. Et donc, elle est arrivée, elle a voulu rattraper le temps perdu. Donc, vous savez, quand vous allez au théâtre, au bout d'un moment, les acteurs de théâtre, ils commencent à s'ennuyer un peu, c'est tous les soirs. Donc, ils se mettent en plus, ils sont portés par le public, les rires. Ils se mettent à en faire de plus en plus. Et à un moment donné, ils deviennent carrément cabotins. Ils deviennent très, très mauvais, quoi. Et il faut jamais aller voir les pièces à la 300e. Bon. Et là, le premier jour du tournage, elle a commencé à la 300e. Et j'étais encore assez diplomate. Bon, parce que j'ai perdu ça avec le succès après comme un imbécile. Mais après, moi, je suis devenu un type odieux qui disait « c'est pas bon, on refait ben. ». Mais là, j'étais très diplomate, donc j'ai dit « c'est formidable, vous êtes génial, venez, on va parler ». Et je lui ai dit « voilà, Jacqueline, je ne voudrais pas que vous fassiez la comique ». J'ai dit « je ne vous ai pas engagé parce que vous êtes drôle, vous serez forcément drôle. Je vous ai engagé parce que vous êtes une diva ». Vous êtes une star, vous savez la calasse, on ne peut pas faire plus chic, on ne peut pas faire plus snob.
Vous avez l'art pour savoir parler. Hein.
Et j'ai dit, voyez, vous allez en vacances chez des milliardaires à Saint-Tropez, vous êtes sur des rivas. J'ai dit, c'est cette personne, je lui ai dit, faites-moi la Maillan. Et d'ailleurs, on m'a dit que vous étiez assez chiante au théâtre, que vous pouvez faire des caprices. Alors elle fait, ah bon ? Je ne savais pas. J'ai dit, soyez cette personne-là. J'ai dit, soyez la milliardaire Jacqueline Maillan, avec le plus bel appartement de Paris, avec une vue, elle avait une vue démente. Bon. J'ai dit, voilà, c'est cette personne qui m'intéresse. Et je dois reconnaître que j'ai été mais bouleversé, parce qu'à la fin du tournage, pendant le tournage, elle a été très aimable, mais quand même toujours un peu en distance. Je crois qu'elle avait un peu le trac, en fait. Et à la fin, on la frappe à la porte de ma loge, et elle rentre, et elle me dit, je veux vous dire quelque chose, Jean-Marie. Merci, merci pour ce rôle. Merci pour vos conseils. En fait, j'ai adoré.
Ah, voilà. C'est chouette.
Donc ça, c'était vraiment très touchant.
On va jouer avec notre auditeur, Alain. Je sais que vous êtes un grand fan de Jacques Tati. Entre
oui,
autres.
Bien sûr.
Hein, et justement, on va jouer au bluff Europe 1.
Tu bluffes, Martini.
Europe 1.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
On va écouter la musique de Jour de fête de Jacques Tati, sorti en 1949. C'est le premier long métrage de Jacques Tati. Il est tourné en 1947 dans la ville de Sainte-Sévère, dans l'Indre, une petite ville de moins de 1000 habitants, sans histoire. Mais pourquoi Jacques Tati a choisi cet endroit pour y tourner son film, son premier film ? Alain, les copains vont vous faire chacun une proposition. Il y en a une sur les trois qui est vraie. À vous de la trouver. Jean-Marie Poiré pourra vous aider s'il connaît la bonne réponse. Proposition de Caroline. Pourquoi Sainte-Sévère dans l'Indre ?
Eh bien, tout simplement, Sophie et les copains, parce que la commune a accepté de financer une grande partie du tournage. C'est pas moi qui vais vous expliquer qu'un tournage de film, ça vaut beaucoup d'argent. Et je vais vous donner juste un petit exemple. Le jour de fête a coûté 17 millions pour le tournage. Bon, on en a rapporté 80 quand même. Mmh. On est d'accord. Moi, j'aime bien parler un peu argent quand même.
C'est mon métier.
Donc, c'est une commune de 1000 habitants qui a financé le film.
Exactement. Une partie.
Des gros impôts locaux.
J'ai dit une partie. Et ils avaient bien raison parce que financièrement, c'était très important. Et juste pour finir, parce que les vacances de Monsieur Hulot, c'est quand même qu'on en a tous entendu parler. Mmh. Ça a coûté 120 millions d'euros, cher Jean-Luc, qui se fout de moi depuis tout à l'heure.
120 millions d'euros.
De francs à l'époque. Ah oui, de francs.
Là, c'est Titanic.
Donc, vous dites que la commune
a rapporté 210 quand même. Donc,
financer une partie du tournage. Daniel.
Voilà. Et non, c'est parce que c'était le village natal du père de Jacques Tati. En fait, le vrai nom de Jacques Tati, c'est Tatichef. Il avait des origines françaises, néerlandaises, italiennes et russes. Et son père, en fait, était né dans ce petit village Berrichon, Sainte-Sévère. Il a voulu lui rendre hommage en y tournant son premier long métrage.
C'est joli, en tout cas.
Toujours la famille, vous savez.
Non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est Jacques Tati avait trouvé refuge pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une ferme à côté de Sainte-Sévère. Et à cette époque, il avait promis aux habitants de tourner son prochain film dans la commune, s'il en faisait un après la guerre. Et il a tenu promesse, tout simplement.
Alors, Alain, vous
penchez.
Il y a deux belles histoires dessous.
Que dit Jean-Marie Poiré?
Oui, bien sûr. Je demande son aide.
Écoutez, moi, je ne crois pas du tout à l'histoire du pognon du village. Déjà, pour avoir du pognon de la région, c'est déjà un énorme problème.
On sent du vécu.
Alors, voyez, donc, pour le village, bon. Alors, maintenant, le papa... enfin, après, je vous laisse entre les deux autres. Il faut aussi que vous jouiez un peu.
Non, mais vous pouvez l'aider quand même.
Je vous en ai
déjà. Il m'a éliminé direct. Voilà. Hein.
Mais peut-être que j'ai tort. Oui. Hein.
Alors, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, je pencherais plutôt pour Jean-Luc Lemoine, pour remercier les habitants d'avoir hébergé. Enfin,
parce qu'il avait promis aux habitants du village pendant la guerre qu'il viendrait y réaliser son premier film. Ouais. Est-ce que c'est la bonne réponse, Jean-Luc?
C'est la bonne réponse.
Merci Jean-Luc, encore.
Et voilà, c'était la bonne réponse. Et ça fait combien alors? Trois bonnes réponses pour Alain. Votre papa, vous lui avez rendu hommage, vous? Il a produit certains de vos films, mais il n'a pas été très facile comme producteur.
C'est-à-dire que il faut comprendre aussi la situation, parce que mon père, qui est un grand producteur, n'était pas son propre patron. Il avait une boîte qu'il employait, qui s'appelait Gaumont.
Travaillait chez Gaumont.
Donc en fait, c'est quand même un petit peu un problème de conflit d'intérêt d'engager son fils. Donc il, d'une part, il n'aimait pas beaucoup que me proposer des choses. Il adorait par contre qu'on me propose, ça lui plaisait. Et puis après, alors par contre, j'avais les plus mauvais contrats de l'histoire de Gaumont. Je crois que personne n'a jamais...
Vous n'avez pas touché de droit d'auteur
À ce moment-là, il avait même fait un truc unique personne n'avait jamais fait avant lui. Parce que quand vous êtes auteur de film, vous touchez des petits royautés, enfin des royalties, sur les passages télévision. Ça se passe à travers une société qui s'appelle la SACD, la Société des auteurs. Et moi, j'ai été étonné un jour, parce que j'avais écrit un très gros succès pour Lautner, ça ne plaît pas de problème. Et je vois que je relève, je ne sais pas pourquoi, parce que je regardais en général la somme, mais pas le détail. Je vois et je dis, mais c'est bizarre. Je vais toucher 12 euros pour un passage sur une chaîne hertzienne. Je crois que c'était TF1 qui payait très bien. Bon. Et donc, j'appelle la SACD, je dis, c'est normal ça. Elle me dit, non, mais c'est un reliquat ou c'est. Puis elle me dit, je vous rappelle. Puis elle me fait, ah non, mais en fait, on s'est trompé, on n'aurait pas dû vous le donner, on aurait dû le renvoyer à Gaumont. Alors je dis, pardon. Oui, vous avez un contrat, elle dit, j'ai jamais vu ça. Hein. Mais c'est un contrat, page 8, alinéa 7, écrit en italique, tout en bas, il y a écrit que les sommes reviennent. Bon. Alors j'ai appelé mon agent qui m'a dit, mais c'est quoi cette ânerie? Jamais j'aurais accepté que tu signes ça. Ben, j'ai dit, ben regarde, parce que j'ai quand même écrit. Et il me rappelle, il me dit, c'est incroyable, mais j'ai pas fait attention, c'est tellement des bateaux. Bon. Et mon père m'a dit... mon vieux, il faut apprendre à lire les contrats.
Parfois, ils vont demander votre avis sur des scénarios, notamment sur un scénario de Marcel Carné.
Oui, oui.
Et alors, donc, vous avez dit que vous trouviez ça chiant.
C'était un peu ennuyeux. Je ne peux pas dire que je m'étais régalé, donc j'avais dit ça, mais je ne m'attendais pas à qu'il lui dise, parce que lui, il disait, mon fils a 17 ans, il trouve ça chiant.
Voilà. Et alors, que vous a dit Carné?
Carné m'a dit que j'étais un imbécile. Je l'ai retrouvé dans une soirée, il m'a dit, c'est vous le fils Poiré? Vous êtes un âne.
Et il s'est tourné le film?
Je crois pas. Parce que je regrette presque un peu, parce que c'est quand même un très grand metteur en scène. J'aurais dû être plus nuancé comme opinion, mais quand on est gamin, on dit ce qu'on pense. Quoi.
Allez, on va jouer avec Alain, le pauvre qui attend, mais c'est vrai qu'on est tellement accro à ces anecdotes qu'on pourrait questionner Jean-Marie Poiré pendant des heures. Alors, on a parlé de Gaumont tout à l'heure. Bah, justement, tiens, on va vous poser une question sur Gaumont. Alors, l'ouverture mythique que vous entendez au début des films produits par le studio américain 20th Century Fox. La France n'est pas en reste avec les studios Gaumont. Le papa de notre invité y a d'ailleurs travaillé comme producteur toute sa vie d'ailleurs, pendant combien d'années?
Alors, pendant très 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 longtemps, c'est très drôle parce que, en fait, il avait débuté à l'agence Havas, et quand on lui a proposé de rentrer dans le cinéma, il a dit, ça c'est pas un métier, le cinéma c'est pas très sérieux. sérieux. Donc il a dit, je veux bien, à une condition, je peux retourner à Vasse quand je veux. Et en fait, il avait un contrat qui lui permettait, à 82 ans, de retourner comme journaliste à l'agence à Vasse. Et Weber lui a dit, finalement, tu es engagé. Il a dit, en fait, tu étais prêt à l'essai, j'ai le moment, et maintenant, tu es engagé.
C'est génial. En 1895, voici ma question, Alain. Léon Gaumont rachète le comptoir général de photographie des frères Richard et en devient le gérant. Parmi les trois personnalités suivantes, avec laquelle va-t-il s'associer ? Gustave Eiffel, Claude Debussy ou Georges Clemenceau ?
Oula, alors là, j'ai aucune
alors,
idée.
On va voir si Jean-Marie Poiré peut vous aider.
Oui, est-ce que...
Jean-Marie, ça vous dit quelque chose ?
Debussy, oui. Clemenceau, Gustave Eiffel, vous pencheriez pour qui?
Déjà, Clemenceau me paraîtrait quand même un petit peu fort de café, vous voyez ce que je veux dire.
Les copains
crois pas, vraiment, j'y crois pas beaucoup.
Et tu sais toi
Je pense Eiffel, Eiffel est un industriel.
Eiffel, il touchait à tout. Hein.
Oui, et Debussy, qui était d'ailleurs un ami de ma grand-mère. Ah. Mais à l'époque, ma grand-mère ne connaissait pas Gaumont. Non, je sais pas, mais je pense que c'est Eiffel.
Moi, j'aime bien le côté Eiffel.
Est-ce que vous suivez Jean-Marie Poiré, Alain?
Ben, je crois que je vais le suivre. Oui,
c'est une réponse importante parce que c'est la quatrième réponse. Et si vous trouvez une bonne réponse, vous tenterez un jackpot à 1 500 €. Mm-hmm. Et Jean-Marie, c'est la bonne réponse.
Ouais. Ah, merci.
En cette nouvelle forme artistique, Gustave Eiffel, le cinéma va bien lui rendre, puisque la Tour Eiffel a très vite été un objet d'intérêt pour les cinéastes. En 1898, les Frères Lumière y tournent le court-métrage Panorama pendant l'ascension de la Tour Eiffel. On peut citer aussi Paris qui dort de René Clair en 1924, ou encore Le mystère de la Tour Eiffel de Jean Duvivier. Vous n'avez jamais tourné à la Tour Eiffel ?
Si, j'ai tourné à la Tour Eiffel. Mon premier film, j'avais pas le droit de le faire parce que j'étais juste stagiaire opérateur. Je ne sais pas pourquoi, on m'a fait confiance c'était un interview de Françoise Sagan. Et elle habitait en bas, et à un moment j'ai dit c'est très statique, donc on va monter. Et alors, c'est incroyable parce qu'on ne pourrait pas faire
vous
ça aujourd'hui.
Vous l'avez adoré d'ailleurs,
François. J'adorais François. Et on est parti avec la caméra, on est rentré dans la Tour Eiffel, j'ai pris 2 tickets.
Incroyable.
On a mis zéro autorisation.
C'était monté. Vous imaginez,
en plus, elle était ravie parce qu'elle m'a dit c'est incroyable, j'habite en face, je ne suis jamais monté.
Allez, on revient dans quelques instants. Quelle bonne réponse pour Alain.
Et bravo Alain.
Le jackpot, hein.
Bravo. Oui, bravo.
Voilà. Là, il y a 1 500 € à gagner si Alain me donne 10 bonnes réponses en moins d'une minute.
Là, on ne peut pas l'aider. Hein.
Non, là, je suis tout seul. Ouais.
10 bonnes réponses, c'est du cinéma, des questions sur le cinéma.
Respirez à bon coup. Respirez.
Conseil de Jean-Marie.
D'accord.
Attention, cher Alain, bonne chance à vous. Top chrono. Merci. De quelle ville vient Jean Dujardin quand il joue Bryce ?
Denis.
Dans Podium, qui campe un sosie de Clo-Clo plus vrai que nature ?
C'est Paul Bord.
Dans quelle cité il est dit, vous voulez un whisky, juste un doigt, mais vous voulez pas un whisky d'abord ?
Zut, je passe.
Comment s'appelle l'Indien dans Un Indien dans la ville ?
Ah, je passe.
Quel acteur a fait 17 films avec Terence Hill ?
Bud Spencer.
Dans quel film on trouve Capitaine Kirk, Spock et le docteur Leonard McCoy ?
Je passe.
Un film de Bollywood est produit dans quel pays ?
Ben, en Inde.
Qui est le compère de Depardieu dans Les Compères ?
Richard.
De quel
Richard.
Pays vient Cécile de France ?
Cécile de France, de Belgique.
Dans les années 80 au cinéma, qui est l'effronté, la petite voleuse ?
L'effronté, c'est... Bon, non, je passe.
Qui a réalisé Psychose et La mort aux trousses ?
Alors, dans quelle cité
vous voulez un whisky, juste un doigt ?
La peur.
Ça vous a fait rire, ça, Jean-Marie Poiré ?
C'est un humour qui vous touche. Oui, j'étais bien.
Quel acteur, ça vous me l'avez dit, dans quel film on trouve Capitaine Kirk, Spock et le docteur Leonard McCoy ?
Star Trek.
Star Trek,
le compère de Depardieu.
Il l'a dit, Richard. Ça, il l'avait dit.
Ça, vous auriez pu. Il y a des points communs entre.
Je me serais trompé, je crois, que j'aurais dit Sim. Mais
non, mais entre le réalisateur des compères.
Francis Weber.
Francis, oui, il y a des points communs entre Weber et vous.
Bah, on aime la comédie. Et ouais. C'est vrai que, bon, c'est un peu un metteur en scène qui a beaucoup compté avec mon père, et donc je le connais bien, et ouais. Il a beaucoup de talent.
Ouais. Et puis c'est vrai que vous avez tous les deux connu des succès énormes avec des binômes.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'on se déteste.
Dans les années 80 au cinéma, qui est l'effronté et la petite voleuse, c'est Charlotte Gainsbourg.
Et Nadia dans la ville, c'était Mimi Sekou, non?
Oui, ouais, Mimi Sekou. Et Hitchcock, bien sûr, ouais. Pour Hitchcock, Psychose et La mort aux trousses.
Ah, ouais, c'est facile quand on n'a pas le stress. Hein. Ouais,
€5 dans le jackpot. Je vous offre une station météo SW403 de la marque Lacrosse Technologie Leader. Français des données météo qui vous annonce la météo des 4 jours suivants. Et puis d'accord. Merci en tout cas d'avoir joué avec nous et de vous être inscrit.
Merci à vous pour votre bonne humeur.
Merci Alain, rappelez-nous. Merci Alain. On ne sait jamais.
Merci de votre accueil.
Bonne fin d'après-midi à vous.
Fois.
Merci.
Merci. Au revoir.
Bonne
au
fin
au
d'après-midi. Revoir. Et nous sommes toujours avec Jean-Marie Poiret. Je vous invite à lire Rire est une fête aux éditions Michel Lafon. On a parlé, c'est compliqué de parler de tout tellement ce livre d'abord est important, tellement il y a d'anecdotes, mais je résiste pas à l'envie de vous faire écouter ces quelques phrases cultes du Père Noël est une ordure.
Eh ben voilà, ça c'est tout la sécu, ça. Il vous donne un numéro, ça rentre même pas dans les cases. Regardez.
Qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases, ça déborde.
Eh ben vous, il n'y a pas assez de place pour les réponses.
Bah, exercez-vous une activité professionnelle. Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse.
Mais évidemment, ça dépasse, c'est ce que je vous dis depuis une heure. Oh, elle se prend plus maligne que tout le monde, celle-là, hein.
Je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais j'étais à deux doigts de m'agacer.
Dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 18 heures pour un soir de Noël, c'est tout de même très calme.
Oui, mais notez, d'un sens, tant mieux.
C'est cela, oui, oui, oui.
Ça vous fait encore rire hein, quand vous écoutez.
Ah, ça m'a fait rire, parce que ça, c'est les répliques de la pièce, et donc la pièce était géniale.
Ouais.
Donc, quand ils m'ont proposé de faire le film, j'étais absolument emballé, parce que j'ai vu la pièce, je ne peux pas vous dire, une dizaine de fois, et j'allais tout le temps les voir et la voir. Et donc, ça doit d'ailleurs les gonfler, parce que souvent on fait. Alors. C'est cela, oui, c'est vous. C'est donc, à mon avis, eux, ils font « Merde, c'est le Splendide qui a écrit ça ».
Alors, Balasko, ça a été l'un de vos coups de foudre, on le découvrira dans le livre. J'aimerais tellement vous garder, tellement continuer à vous interviewer, tellement continuer à parler avec vous, mais hélas, notre émission s'achève.
Ouais, trop court.
Il y a aussi un très joli passage quand vous dites que vous regrettez d'avoir engueulé Bakri parce qu'il jouait un personnage d'homosexuel et il n'allait pas assez à fond dans son personnage.
C'est génial, d'ailleurs, meilleur copain.
Que j'ai revu, moi, j'ai pas résisté à l'envie de le revoir, d'ailleurs, ce film, qui n'a pas eu le succès escompté au cinéma, mais à la télévision, oui. Bon, je vous laisse découvrir tout ça, c'est dans ce magnifique livre. Merci Jean-Marie Poiret.
Merci
et bravo,
à vous.
Et j'espère qu'il y aura un prochain film.
Ah voilà.
On l'attend libre avec impatience.
Voilà, je suis libre dessus. Que les producteurs n'hésitent pas à appeler Europe 1 et on donnera mon téléphone.
Et est-ce que vous avez tout mis dans ce livre ou on pourrait avoir un tome 2?
Je suis en train d'écrire, en fait, pour l'instant, une espèce de préquel, en fait. C'est-à-dire que, là, parce que je ne pouvais pas écrire 900 pages, donc je me suis centré sur mes films, mais c'est vrai que j'ai connu, par exemple, Michel Audiard, De Funès, Bourville, David Niven, Gérard Houry.
Alors, on vote pour le deux.
Je vais écrire un préquel, c'est-à-dire quand j'étais une petite souris dans ce métier.
Avec plaisir. Alors, on a hâte de le lire. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci à Alain et Valérie, nos candidats. On a appris aujourd'hui que George Lucas s'est inspiré des aventures de Picsou, le canard, pour écrire les aventures d'Indiana Jones, que Gustave Eiffel était l'un des premiers actionnaires de la société Gaumont. Et on attend avec impatience la suite de ce livre « Rire est une fête » publié chez Michel Lafon. Revoyez les films de Jean-Marie Poiret.
Ah là là.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739 21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Vous retrouverez Sophie Davant en direct dès lundi avec en invité la chef étoilée Hélène Darroze. Vous savez, la jurée emblématique de Top Chef. Bientôt 6h, dans un instant, c'est l'info. Europe 1 Matin Weekend avec Lénaïque Monnier et toute la rédaction d'Europe 1, avec notamment la météo d'Anthony Kazmarek. Et puis, de notre côté, on va se quitter en chanson sur un titre de 1975 aujourd'hui, extrait du 4e album des Eagles, One of These Nights, pour clore nos programmes de nuit. Je vous souhaite un beau week-end à l'écoute d'Europe 1.
Sur Europe 1, One of These Nights. 6 heures approche, il est donc temps de retrouver Lénaïque Monnier pour Europe 1 Matin Weekend.
Europe 1.
Et bonjour.
Bonjour à tous, ravi en effet de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Europe 1 Matin Week-end à 3h tous ensemble. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous retrouver avec le joli mois de mai qui a déjà bien commencé, le temps file. Toute l'équipe est là pour vous accompagner, notamment Anthony Kazmarek qui est de retour, bien réveillé,
oui,
en forme Anthony.
Bonjour, bonjour à tous, très en forme, joli mois de mai, bon on repassera
on
pour
l'instant. Vous allez nous expliquer tout ça, vous êtes à mes côtés jusqu'à 9h, on va ensemble vous informer hein, puisque Europe 1 Matin Week-end c'est avant tout l'actualité. Un journal toutes les demi-heures et des invités. À 7h moins le quart, est-ce qu'il reste des places dans les gîtes de France pour les grands week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte? Nous poserons la question à Solange Escure, directrice de Gîtes de France, et puis à l'invité d'Europe 1 Matin Week-end à 8h12 et Marie Guévenoux, ministre déléguée chargée des Outre-mer, après deux jours de visite à Mayotte. Vanessa Zah et Olivier Pouls nous attendent pour les balades à 7h moins 10. Nous allons à Cabourg et nous cuisinons de la rhubarbe. Nous retrouverons également Mathieu Alterman à 7h20 avec les réalisateurs français vénérés dans le monde entier. Sans oublier, bien entendu, comme chaque week-end, les incontournables de Julia Vignali. Là, on a rendez-vous un tout petit peu plus tard, ce sera avant le journal de 9h. Et c'est Julie Gayet qui est sur Europe 1 ce matin. Voilà, vous savez tout du programme. Vous commentez évidemment Europe 1 Matin Week-end sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. Il est 6h sur Europe 1.
Europe 1 Matin Week-end.
6h, 9h.